Et je me souviens un jour, j'ai un oncle qui arrivait de Normandie et qui est arrivé avec une oie. Alors on s'est fait des. On en avait des. Oui, des gorgées chaudes, si je peux dire, de cette oie qui allait faire notre repas. Et puis quand elle est arrivée, évidemment, elle a voyagé un certain temps parce que. À l'époque, les communications n'étaient pas faciles. Et quand elle est arrivée, ma mère, qui avait un odorat très fin, et dont mon père disait, elle a un syndrome de l'empoisonnement, ma mère a dit, mais cette bête ne sent pas bon, on va tous s'empoisonner. Alors on a essayé de la raisonner, il n'y a rien eu à faire, et la loi est partie à la poubelle, enfin, et alors on était désespérés. Mais pendant la guerre, on a eu faim quand même. Je me souviens, moi j'étais en pension, là, de l'autre côté de la rue, et bien quand on arrivait aux vacances, ma mère faisait des bassines de soupe, et on mangeait de la soupe. Comme on se régalait, hein, on se serait régalé d'une friandise. Oui, c'était terrible. Eh bien, oui, enfin, je vous dis si de la soupe parce que je m'en souviens, parce que c'était ma mère essayait de nous remplir l'estomac, si on peut dire, et qu'il fallait qu'on soit alimenté. J'ai un frère qui était en pension à Grenoble et ma mère lui donnait quand il partait des pommes de terre cuites et c'était pour son goûter. Et après, il nous racontait qu'il essayait de les faire durer à tel point que les dernières, il les mangeait presque moisies. Enfin, dans ma famille, on ne peut pas dire qu'on a eu faim. Mon père était médecin à la campagne. Et donc, souvent, il ramenait des choses dans sa voiture. Mais il nous envoyait, je me souviens, aux vacances de Mardi Gras, où il gelait parce qu'il faisait plus froid à l'époque que maintenant. Et il nous envoyait en vélo sur des routes verglacées pour aller chercher des quartiers de cochons que des paysans lui avaient mis de côté. Et en nous disant, faites bien attention. Parce que si vous rencontrez les Allemands, vous allez risquer la prison. Alors nous, on était effrayés. Mais c'était ça, hein, c'était ça. Je crois que si on s'était fait prendre par les Allemands, ils nous auraient frotté les oreilles, hein. J'avais 10, 12 ans. Et alors, on a appris à ramasser les mûres et à faire de la confiture en faisant du raisiné. C'est-à-dire un ensemble de fruits très sucrés, notamment des raisins, hein, et qui faisaient une confiture qui pouvait se conserver longtemps. Remarquez, ce n'était pas terrible le raisiné, je trouve. Mais enfin, on aurait mangé n'importe quoi. À savoir qu'il y a des familles qui étaient bien plus mieux nourries que d'autres parce qu'elles avaient des moyens à la fois et des connaissances qui faisaient qu'elles avaient un ravitaillement important. Alors je vois, moi, quand j'étais en pension, alors il y a des camarades qui revenaient de vacances, notamment de Saône-et-Loire, où c'était un pays plantureux. Enfin, elles partageaient gentiment avec nous, mais il y en a qui ne partageaient pas, et nous, on était là à les regarder. C'était dur, hein? C'était dur. Alors, au départ, moi, j'ai eu des camarades dont les parents refusaient absolument le marché noir, hein? C'est-à-dire de payer un peu plus cher pour avoir un peu de nourriture. Mais au bout d'un certain temps, c'était plus tenable, hein, pour certains qui pouvaient payer et qui disaient il faut que les enfants mangent. Ben oui, mais d'autre part, qu'est-ce qu'il faut faire? Refuser le marché noir et laisser ses enfants crever la faim? Parce que c'était un peu ça quand même. Un de mes cousins qui était bien plus âgé que moi, puisque moi j'avais 12 ans, et le cousin il avait 20 et quelques, et qui allait voir sa fiancée à Anse après lui avoir acheté une tarte au rutabaga. dans une boulangerie. Enfin, alors tout le monde se disait, ben, la pauvre fiancée avec sa tarte au rutabaga, elle n'a pas dû se régaler.
Celui qui se contentait
des quantités qui étaient autorisées, mais il crevait la faim. Quand on est une famille très nombreuse, alors à Noël, quand on se déplaçait sur Paris avec une partie du repas, j'ai toujours emporté un gratin dauphinois que j'enveloppais dans des couvertures. Et une année, on est arrivé près de Sens, et ben le gratin, il est encore bouillant. C'était le système de la marmite norvégienne. J'avais un paquet de couvertures. Alors, il y avait toute une technique. Je disais aux enfants, écoutez, regardez-moi faire, parce qu'il ne faut pas faire n'importe comment. Vous voyez, il ne faut pas que les couvertures tremblent dans le gratin. Enfin bref, eh bien, avec ce système, alors, je vous dis, il y avait... Même certaines années où je me disais, mais comment j'ai fait l'an dernier? Mais en tout cas, mes beaux-frères et belles-sœurs étaient stupéfaits de voir. J'ai dit, j'ai rien inventé. On a pris quand même des habitudes d'économie et de débrouillardise, disons. Je me souviens, une fois, on avait fait un pique-nique avec mes parents, leurs frères et sœurs, donc des oncles et tantes. Mes tantes avaient fait des tas de choses avec à base de lentilles et qui étaient délicieuses. Hein. Mais comme elles disaient, ça nous a demandé quand même un certain temps. On devient inventif. D'ailleurs, c'est comme ça, c'est le manque qui vous fait devenir inventif. Hein. Alors, comme disait mon mari quelquefois aux enfants, « Oh ben, vous auriez bien d'une bonne guerre. » Oh ben, les enfants répondaient, « La bonne guerre, on l'a connue quand même un peu de temps en temps, avec certaines idées bizarres de maman. » Mais oui, mais c'était productif. Hein.